Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, nous irons d'abord à Mantes-la-Jolie après la diffusion de ces images d'arrestation. 150 jeunes gens à genoux, encadrés par des policiers, en partie moqués après des violences urbaines. Que sait-on de cette histoire qui suscite la controverse? Nous verrons cela en détail. Et demain, comment se déroulera la journée? La carte des mobilisations avec Béatrice Duguay. Des appels à se rassembler sur le périphérique parisien fleurissent ce matin. Le gouvernement ne passe plus qu'un message depuis hier. Très grand risque de violence. Comment manifester sans être accusé de violence? Benjamin Cauchy, l'un des gilets jaunes modérés, appelle au calme et à manifester près de chez soi.
La France des oubliés, c'est la France des territoires. Et c'est bel et bien dans les territoires que, de façon pacifiste, les Français manifesteront leur mécontentement vis-à-vis de cette politique qui ne nous convient pas et qui ne convient pas à 85% des Français.
Autre information de la matinée, l'appel à la grève est levé chez les routiers. Qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Des chercheurs de Toulouse ont épluché Twitter et Facebook parmi les conclusions rejet massif d'Emmanuel Macron. Nous serons avec l'une des auteurs de l'enquête, Anne Seba. L'aspect médiatique de cette crise, c'est aussi avec vous, Alexandra Akoun. Bonjour Alexandra.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Comment les chaînes d'infos continuent? Préparent-elles la journée de demain?
Éditorialement, que vont-elles montrer? Que vont-elles laisser à l'écart? Et puis, comment assurer la sécurité des reporters sur le terrain? On verra tout ça.
Merci, à tout à l'heure pour les détails. Les gilets jaunes, encore une longue et large page de ce journal de 13h, vous l'aurez compris. Les autres titres, c'est le discours d'adieu d'Angela Merkel à son parti, la CDU. Et puis j'ai testé pour vous, comme chaque vendredi dans ce journal de 13h aujourd'hui, un nouveau parc d'attractions tout en réalité virtuelle. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Météo France nous dit en résumé que le week-end sera pourri. Hein.
Exactement, déjà de nouvelles pluies aujourd'hui, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux frontières du Nord, des averses sur le Nord-Ouest, beaucoup de vent, du soleil sur le quart sud-est tout de même cet après-midi, de la douceur, 10 à 18 degrés. Et puis effectivement, programme du week-end, pluie, neige sur les massifs de l'Est et beaucoup de vent à surveiller d'abord sur les Alpes et sur la Corse.
A tout à l'heure Élodie Calac, le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Elle est grande, la responsabilité des policiers. Ils font face à un niveau de violence important, degré de fatigue avancé dans les troupes, mais la moindre faute professionnelle peut rendre le climat plus brûlant encore. Mantes-la-Jolie, banlieue parisienne, les Yvelines, ces images qui circulent depuis hier sur tous vos écrans, télé, smartphone. Plus de 150 jeunes gens arrêtés près du lycée Saint-Exupéry après plusieurs journées de manifestations violentes. Ils sont à genoux, les mains sur la tête. Ils sont filmés, encadrés par des policiers. L'un d'entre eux a une phrase moqueuse, l'un des policiers. Alors est-ce une faute professionnelle ou une réaction musclée mais légale à un contexte de grande violence? Nous allons examiner les éléments dont on dispose en ce vendredi. Direction Mantes-la-Jolie d'abord, Sébastien Sabiron. Vous êtes avec Jérémy Tuile devant le lycée Saint-Exupéry. Quel récit fait-on ce matin sur place?
Eh bien écoutez Bruno, les versions divergent légèrement, d'autant que certains parmi les premiers concernés sont toujours en garde à vue. Ce qui est sûr, c'est que la cour où l'on voit ces jeunes agenouillés sur les vidéos se trouve juste en face du lycée Saint-Exupéry, la cour d'un pôle associatif qui s'est transformé en souricière pour les jeunes interpellés. Hamid habite le Val-Fouré, un quartier tout proche, venu soutenir ses camarades hier, dit-il. Il s'était lui réfugié dans un buisson.
Alors que c'est bon, ils ont tout interpellé, ils ont encore retiré de la gaz lacrymogène, des flashballs, j'entendais des fermes ta gueule, des fermes vos gueules, ils filmaient, mais c'est inadmissible, pourquoi ils filment? C'est de la provocation en quelque sorte.
Rachida est la mère d'un lycéen de première mobilisé depuis lundi contre la réforme du bac et Parcoursup. Son fils est en garde à vue depuis hier, Rachida très choquée par les images de son interpellation.
Les voir alignés comme ça, à genoux, les bras derrière la tête, et comme s'ils étaient des grands criminels. Et comme s'ils allaient être fusillés, quoi. Ça m'a rappelé en fait des images assez glauques qui m'ont fait froid dans le dos, ouais, qui m'ont blessée en tant que maman. Et je ne sais pas dans quel état psychologique eux ils doivent être. Je comprends qu'il faille mettre, on va dire, fin à ces violences. Mais voilà, la manière dont s'est passée l'interpellation, la vidéo, l'humiliation, les propos, ça par contre, ça fait super mal.
Car au-delà des images, ce sont les commentaires entendus sur la vidéo qui choquent profondément les parents et les enseignants. Nathalie Coste est prof d'histoire géo à Saint-Exupéry.
Voilà une classe qui se tient bien, faut le montrer à leurs profs. Enfin, je tiens vraiment à vous dire qu'ici, les profs font le maximum pour redonner de l'espoir, pour construire des parcours de vie et des parcours d'études structurants pour nos élèves, avec tout le respect possible. Là, c'est exactement l'inverse qu'on a vu hier. Donc on est très triste.
Car ici, nous dit-on, personne n'excuse la violence, on lutte contre la violence au quotidien. En revanche, parents comme élèves ou enseignants attendent désormais des réponses.
Sébastien Sabiron en direct de Mantes-la-Jolie, le défenseur des droits ouvre une enquête sur cette histoire. La gauche crie au scandale. Que penser d'un pouvoir qui traite ainsi la jeunesse, dit l'insoumis François Ruffin. Oui, ces images sont choquantes, mais on est dans un climat de violence exceptionnelle, dit le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer ce matin sur France Inter. Autre intervention, celle du préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault. L'arrestation s'est faite dans les règles.
Les procédures ont été respectées. Il n'y a pas eu un blessé, pas une écorchure, pas une plainte. J'assume évidemment la totalité de la responsabilité de ce qui a été fait par les fonctionnaires de police. Je peux comprendre que ça ait impressionné certains esprits, mais il faut raison garder. Que ceux qui donnent des leçons m'expliquent comment interpeller 150 personnes animées d'intentions particulièrement violentes sans qu'à un moment donné on essaie de regrouper les gens. L'interpellation et les conditions de l'interpellation ont été parfaitement proportionnées à la réalité des risques.
Un propos recueilli par Sonia Bourhan. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Service police-justice de France Inter. On comprend que cette série d'arrestations peut encore alourdir le climat. Avec vous, rassemblons les éléments. Ce qu'on sait de cette histoire à 13h06.
Depuis lundi, Mantes-la-Jolie était le théâtre de mouvements lycéens et de violences urbaines parties du quartier du Val-Fouré, avec des jeunes qui vont à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur parle aussi de violences commises dans un secteur pavillonnaire voisin. Une trentaine de meneurs sont identifiés, avec jusqu'à hier des barricades et des bouteilles de gaz jetées au feu. Un dispositif policier fort de 80 agents, selon une source policière, va procéder à des interpellations. Les jeunes prennent la fuite ou sont repoussés vers le jardin du pavillon. À ce moment-là, le ministre de l'Intérieur justifie la scène qui choque les jeunes alignés à genoux par le fait qu'il n'y aurait plus eu que 12 agents pour les surveiller avant de procéder à la fouille et aux auditions. Sur les chiffres des interpellations, 150 pour le ministère de l'Intérieur, le parquet de Versailles en a décompté 189, mais surtout le département, avec seulement 18 majeurs. Donc ce sont essentiellement des mineurs, dont 17 sont présentés ce matin à un juge des enfants. 79 personnes ont été relâchées. Combien de gardes à vue toujours en cours? Plusieurs dizaines, mais les chiffres sont encore très fluctuants. À ce stade, il n'y a pas d'enquête judiciaire sur les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces interpellations. L'IGPN n'est pas saisi, mais vous l'avez dit, le défenseur des droits, lui, vient d'ouvrir une enquête.
Et le mouvement de contestation dans les lycées se poursuit, des perturbations dans environ 200 établissements, ce qui est une poignée, hein, rapportée au nombre de lycées en France, 4400. Des bouteilles d'acide projetées vers les forces de l'ordre devant la préfecture de Saint-Brieuc ce matin, selon nos confrères de France Bleu. Autre information, la direction de l'université Lumière Lyon 2 ferme ses campus, menace d'un blocage. Alors face aux gilets jaunes, il y aura énormément de bleu demain. En tout, face aux manifestants présentés comme des tueurs en puissance par le gouvernement, 89 000 policiers et gendarmes à travers la France, la quasi-totalité des compagnies de CRS et unités de gendarmerie mobile, 8 000 représentants des forces de l'ordre à Paris. Le gouvernement force-t-il le trait ou bien est-ce qu'il relaye des alertes reçues par différents canaux? Peut-être un peu des deux. En tout cas, il ne cesse d'alerter sur la très grande violence potentielle de la journée demain. Ce matin encore, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
Je n'aurai aucune tolérance pour ceux qui instrumentalisent la détresse de nos compatriotes. Je m'adresse aux casseurs qui, parmi les gilets jaunes, ont basculé dans la violence, comme aux professionnels de la violence qui se sont greffés au mouvement. Aux délinquants, aux criminels, nous opposerons la réponse la plus ferme. Mais je sais que ceux qui ont de la sympathie pour les gilets jaunes condamnent, comme nous tous, ces violences. À eux, je voudrais dire que tout sera mis en œuvre pour les défendre. Ces trois dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Et ils sont nombreux. Maintenant, place à la République, place à nos valeurs, place au respect du droit, place au dialogue et à la réconciliation, place à la paix et à la protection. Ce sera tout le sens de notre mobilisation pour demain.
Propos recueillis par Emmanuel Leclerc. Alors comment ne pas être mêlé aux casseurs? Écoutez l'appel de Benjamin Cauchy, l'un des gilets jaunes dit modéré. Il n'y a pas que Paris dans les manifs.
Alors évidemment, nous appelons au calme, nous appelons au respect des biens publics, nous appelons au respect des forces de l'ordre. Nous n'invitons pas les Français à joindre les mouvements qui auront lieu sur Paris demain. La France des oubliés, c'est la France des territoires, et c'est bel et bien dans les territoires que, de façon pacifiste, les Français manifesteront leur mécontentement vis-à-vis de cette politique qui ne nous convient pas et qui ne convient pas à 85% des Français. Et je peux vous assurer que malgré cette volonté de l'État de nous enfermer avec des casseurs, je peux vous assurer que dans le Nord encore, des messages cette nuit, il y a plus de 5000 personnes qui vont se mobiliser pacifiquement et qui prendront le choix de ne pas prendre le TGV et de ne pas venir à Paris. Il y a 15 000 personnes en Rhône-Alpes qui nous ont contactés il y a deux jours, qui hésitaient à venir sur Paris, ils ne viendront pas. La France des oubliés, eh bien, elle restera en région et elle s'exprimera en région le plus pacifiquement possible.
En région, justement, pacifique ou pas, 28 cocktails Molotov prêts à l'emploi, 3 bombes artisanales ont été saisies ce matin sur un rond-point occupé par des gilets jaunes à Montauban. Alors, l'aspect sécuritaire, policier de cette crise, c'est une chose, il y a un aspect social aussi. Béatrice Duguay, avec vous, la carte de la mobilisation demain. Nouveauté de la matinée à Paris, ce sont des appels à manifester sur le périphérique.
Rendez-vous donné porte-maillot à 9h pour une manifestation des gilets jaunes en colère. Sur le périphérique, effectivement, appel lancé par Éric Drouet ce matin via réseau social. Celui qui a lancé le mouvement n'invite plus donc à marcher sur l'Élysée comme il y a deux jours. Changement de stratégie explicite pour porter les revendications là où il n'y a rien à casser, rien à détruire, dit-il. Il interdit aussi pétards explosifs et autres objets contondants. Manière de faire un geste dans l'appel au calme général, de répondre aussi à cette inquiétude exprimée par Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Les gilets jaunes sincères ne peuvent pas servir de bouclier humain pour des éléments politisés, radicalisés. En attendant de voir si cet appel sera entendu ou non, eh bien la capitale se protège, les commerçants seront nombreux à baisser le rideau. La préfecture de Paris a demandé aux entreprises de BTP de sécuriser les chantiers sur un très grand périmètre pour éviter que les barrières ne servent de barricades ou de projectiles. Beaucoup de musées fermés, Tour Eiffel également.
Et en province ?
Toulouse, là où les affrontements sérieux se sont produits samedi avec les forces de l'ordre, eh bien les gilets jaunes souhaitent manifester avec les militants de la Marche pour le Climat, appellent à rejoindre le mouvement aussi des personnels infirmiers et médicaux, de Sudrail, le syndicat. Au Puy-en-Velay, où la préfecture a été incendiée, rassemblement annoncé sur un parking poids lourd excentré pour ensuite converger vers la préfecture et se disperser. Des renforts de sécurité, évidemment, sont attendus en nombre dans la capitale de la Haute-Loire. À Saint-Étienne, tous les policiers et gendarmes qui pouvaient être rappelés le sont, dit-on. Le maire de la ville a demandé l'annulation de la fête des Lumières de Lyon pour pouvoir dégager des forces CRS et protéger les grandes villes alentours. À voir, a priori, ça ne sera pas appliqué. Parmi les autres endroits éruptifs, arrivés annoncés de manifestants de la Drôme au rond-point du Pouzin dans l'Ardèche, là où 23 gendarmes ont été blessés samedi dernier. Effectif de gendarmerie supplémentaire prévu demain. Et puis peut-être un dernier lieu, faute d'être évidemment exhaustif. Oui. Le préfet du Pas-de-Calais, lui, interdit des manifestations dans plusieurs endroits sensibles, proches des entrées d'autoroutes. Interdiction aussi de transporter accessoirement des bidons d'essence, des engins pyrotechniques et de l'alcool.
Merci Béatrice Duguay. Téléthon, compétition sportive, spectacle. Qu'est-ce qui est maintenu, qu'est-ce qui est annulé en France demain? Un résumé, là aussi, le plus exhaustif possible, mais ça n'est jamais complet, sur franceinter.fr. Cette information dernière minute que nous donne Fabrice Rigobert du service des sports de France Inter. Le match de handball de l'équipe de France demain à Nantes face à la Suède est annulé. Du côté du Téléthon, précisons que si le studio installé à Concorde au centre de Paris a été rapatrié dans les bâtiments de France Télévisions, évidemment le week-end est maintenu, 36-37 pour vos dons. La diffusion des images sur tous les écrans joue évidemment un rôle clé dans cette crise. Comment les télés d'info continuent s'apprêtent-elles à couvrir la journée de demain? Comme promis, Alexandra Hakoun, vous êtes avec nous, vous avez mené l'enquête.
Oui, et les chaînes d'info ont une responsabilité, Bruno, elles le savent. Toute la difficulté sera donc de savoir ce qu'il faut montrer, ce qu'il va falloir laisser à l'écart. Céline Pigalle est la directrice de la rédaction de BFM TV.
Il faut à la fois être sur les faits et donc qu'on sache ce qui se joue, notamment dans Paris, et à ne pas mettre en valeur la violence et ne pas lui donner d'espace excessif. Tout ça étant absolument sur un fil. Et donc on va être devant l'écran et en régie surtout, arbitrer minute à minute le choix de nos images pour contrôler ce qui va être diffusé à l'antenne.
Il va aussi falloir assurer la sécurité des reporters en cas d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, mais aussi face aux agressions ciblant directement les journalistes. Il y en a encore eu hier à Toulouse. Les équipements globalement seront les mêmes que la semaine dernière, à commencer par des micros sans logo. Johan Giametta d'Angelo de CNews, samedi dernier sur les Champs-Élysées.
On a enlevé les bonnettes, comme on appelle ça. On a mis une bonnette neutre pour ne pas être identifié. Et on travaille aussi avec un agent sécurité pour nous protéger en cas de débordement. nous a donné des masques médicaux pour se protéger des gaz lacrymogènes, des casques aussi pour se protéger, et tout ça, du coup, c'est dans mon sac.
Les casques, ce sont souvent des casques de vélo, de skate, que les reporters retirent, généralement, lorsqu'ils sont à l'antenne. Exception faite des journalistes de Russia Today, qui eux, disposent en plus de casques lourds, comme l'armée, histoire de dramatiser un peu plus sur le thème, c'est la guerre.
Merci Alexandra. Le soutien de l'opinion au mouvement reste, selon les différentes études d'opinion publiées en cette fin de semaine, massif, même s'il faiblit un peu, les images de violence laissent des traces. Autre tendance, le rejet là aussi massif d'Emmanuel Macron, on en reparle dans un instant. Mais les principales figures de l'opposition n'en profitent pas. C'est un baromètre Elab pour nos confrères des Échos et de Radio Classique. Les popularités de Marine Le Pen, de Laurent Wauquiez, de Jean-Luc Mélenchon, d'Olivier Faure n'ont pas bondi, loin de là, depuis le début du mouvement social. Écoutons Bernard Sananès d'Elab.
On aurait pu penser qu'avec cette crise très forte, il y aurait un phénomène d'alternative ou de recours qui se dessinerait dans l'opinion. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que pour les Français, cela se joue entre Macron et le peuple. Ça ne se joue pas entre Macron et la droite ou Macron et la gauche ou Macron et le Front National. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est bien sûr une nouvelle démonstration de la défiance à l'égard de l'ensemble de la classe politique, les opposants principaux, qu'ils s'appellent Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qu'ils s'appellent Laurent Wauquiez. Ils ne rayonnent pas au-delà de leurs sympathisants. Et donc, ils ne sont pas aujourd'hui dans une situation où ils peuvent encore reconquérir de nouveaux électeurs. Ce mouvement n'est pas né par les formations politiques, il n'a pas été accompagné par elles, et donc c'est assez logique que l'opposition, finalement, n'en profite pas.
Un propos recueilli par Hélène Fromanti, et une précision sur l'information que je vous donnais il y a une minute, le match de handball de l'équipe de France est reporté à dimanche. L'invité de ce journal est Brigitte Seba. Bonjour madame.
Bonjour.
Maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse, chercheuse au LERAS, laboratoire d'études et de recherche appliquée en sciences sociales, qui est rattaché à Toulouse 3. Alors avec quelques collègues, vous avez au fond passé au crible une partie de Twitter et de Facebook pour voir ce qui se disait sur cette crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous avez étudié précisément? Quel site, quel compte Twitter?
Alors on a analysé des hashtags sur Twitter, donc des hashtags comme hashtag sur les gilets jaunes, etc. On a pris plusieurs hashtags qui étaient corrélés au mouvement, et puis on a analysé un groupe Facebook, c'est la France en colère,
oui.
C'est un groupe assez important, sur donc 37 251 posts exactement, et pour Twitter ça fait plus de 2 millions de tweets qu'on a pu passer au crible en fait.
Travail colossal. Quels enseignements vous en tirez?
Alors, on en tire plusieurs enseignements puisqu'on avait fait un précédent rapport sur la première semaine de contestation autour du 17 novembre. Là, maintenant, le mouvement a évolué. Il y a des constantes et puis il y a des choses différentes. La première chose, c'est qu'effectivement, les contestations, elles sont toujours assez homogènes. Il y a deux pôles de revendication, des doléances qui sont portées à la connaissance du gouvernement, c'est-à-dire des contre-propositions qu'ils font au gouvernement, qui sont toujours les mêmes sur les inégalités sociales, les injustices fiscales, sachant que la taxe contre le... Enfin, la taxe, la hausse du carburant, oui. Ça, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un détail, c'est devenu un détail. Et puis, il y a...
Et alors, quelles revendications précisément? Arrêtons-nous sur ce premier point. Quelles revendications émergent?
Ben justement, la hausse du pouvoir d'achat, la revalorisation du SMIC, on a pas mal de choses. Et puis, l'autre pôle de revendication... Oui. C'est véritablement les changements institutionnels. Oui. Et là, on est beaucoup plus, on n'est pas du tout en dialogue avec le gouvernement. Là, on demande à une assemblée constituante, on demande autre chose. Mais ces deux pôles de revendication ont quelque chose en commun. Ils revendiquent tous deux, finalement, la nécessité d'un référendum d'initiative citoyenne. C'est ce qu'ils partagent. Donc on peut dire que ça, c'est largement partagé.
Autre point,
en tout cas dans ce groupe. Hein.
Oui, dans ce groupe-là, donc celui de la France en colère. Autre point saillant, Brigitte Seba, le rejet du président de la République.
Oui, alors là, autant dans notre précédent rapport, ça n'apparaissait pas autant de façon saisissante. Et là, pour le coup, la figure du président, elle semble cristalliser l'ensemble des oppositions et du rejet, davantage qu'Édouard Philippe. Il semble être le seul interlocuteur dont certains disent qu'il se cache même derrière Édouard Philippe. Et donc, pour le coup, il y a une cristallisation autour de la personne, de la posture, de la fonction d'Emmanuel Macron. Hein.
Avec quels mots reviennent?
Bon, les mots qui reviennent, c'est démission.
Oui.
Le premier, c'est démission. En gros, il est l'heure de faire un bilan, de faire les comptes et que les compétences attendues n'y sont pas. Enfin, voilà. c'est que il était attendu autour de certaines propositions, peut-être de rééquilibrer davantage aussi la répartition des richesses, etc. Mais il n'a pas pu, il a failli, donc pour le coup, là, ils attendent soit un revirement de la part d'Emmanuel Macron, soit une démission.
Le président de la République qui doit s'exprimer en début de semaine prochaine. Y a-t-il au sein de ce groupe Facebook ou à travers ce que vous avez vu de Twitter un débat sur la violence et l'utiliser ou pas, manifester ou pas? Qu'est-ce qui se dit sur ce thème-là?
Là, on a pu voir des traces, on va dire, d'homogénéité des gilets jaunes, autant sur Twitter que sur Facebook, enfin des pro-gilets jaunes sur Twitter notamment, c'est-à-dire qu'ils ont un refus en commun de la violence. Et ils l'expriment de façon assez nette. Et donc avec même le soutien qu'ils ont vis-à-vis des lycéens, c'est-à-dire que si certains reconnaissent que la violence pourrait être nécessaire pour se faire entendre, ils sont vraiment à la marge. La plupart sont dans la solidarité, dans faites attention à vous, etc. Il faut rester pacifiste. On ne peut pas, voilà. Et alors ça aussi, on le trouve dans le fait qu'ils modèrent beaucoup. Enfin, on suppose qu'ils modèrent le groupe, notamment Facebook, parce qu'ils font des appels à la modération et qu'ils ne veulent pas que la violence soit mise devant, que ça donne une image décrédibilisante, on va dire, pour leur mouvement, en fait.
Merci beaucoup, Brigitte Seba, d'avoir répondu à nos questions. Les détails de cette étude, on les trouve sur franceinter.fr, où il y a beaucoup, beaucoup de compléments et d'analyses, notamment justement sur ce qui se dit sur Facebook, les Gilets jaunes partagés sur la mobilisation de demain. Autre rendez-vous sur France Inter, le 18-20 de Claire Servageant ce soir, pour thème, la fracture territoriale et puis comment renouer les fils de la démocratie. Une dernière information, je vous la donnais en titre, l'appel à la grève chez les routiers CGT et FO, cet appel à la grève est levée.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Nous allons à Hambourg à présent. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour à tous.
Correspondant de France Inter en Allemagne, Hambourg, où un discours d'Angela Merkel était prononcé ce matin. C'est un discours d'adieu, en tout cas adieu en tant que chef de son parti, la CDU. J'ai envie de dire premier discours d'adieu d'une longue série dans les mois à venir.
Oui, tout à fait. Ce sera, il y en aura d'autres, c'est sûr. Mais celui-ci était tout particulier, tout simplement parce que c'était le premier. Et puis après 18 ans passés à la tête de ce parti, les délégués ici, lui ont rendu finalement avec des applaudissements qui ont duré plus de 9 minutes. C'était assez hallucinant de voir Angela Merkel vouloir se rasseoir, puis être obligée de revenir au centre de la scène, de resaluer la salle. Voilà, ça c'était le moment un petit peu de ce congrès, de ce 31e congrès de la CDU. Merkel qui aussi, attention, hein, solde les comptes au passage et ne résiste pas notamment à s'en prendre à son vieux rival Wolfgang Schäuble, le tenant de la vieille garde conservatrice. Elle l'a à plusieurs reprises dans son discours tensé. Façon de dire en creux son soutien pour la candidate à sa succession, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a face à elle cet après-midi Friedrich Merz, lequel est soutenu par cette vieille garde. Et puis, quel que soit le gagnant, Merkel se permet d'avertir ceux qui voudraient, dans un avenir proche, la chasser de la chancellerie. Elle dit « Je suis encore chancelière » et elle entend bien le rester jusqu'au bout. Hambourg, Ludovic Piétenu, France Inter.
Merci Ludovic, en direct d'Hambourg. 19 religieux et religieuses catholiques assassinés en Algérie pendant les années noires de la guerre civile seront béatifiés demain à Oran. Première cérémonie du genre dans un pays musulman. Parmi eux, il y a les 7 moines de Tibérine, tués en 96. 22 ans plus tard, le mystère demeure sur les circonstances de leur mort et l'affaire continue d'empoisonner les relations entre France et Algérie, Valérie Crova.
Plus les années passent et moins il est possible d'établir avec certitude le déroulé des événements. Les 7 religieux ont été enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 96 par une vingtaine d'hommes armés. Ce n'est que 2 mois plus tard que le GIA annoncera par voie de communiqué que les moines ont été assassinés. Seules leurs têtes seront retrouvées sur le bord d'une route de montagne. Il faudra attendre 2014 pour que les crânes des religieux enterrés dans le jardin du monastère de Tibérine soit exhumé et que des prélèvements soient effectués. L'opération a été autorisée par Alger, qui a refusé dans un premier temps que les experts français rapportent des échantillons. Il faudra encore 2 longues années de discussions pour que la justice française obtienne le droit de récupérer les prélèvements. Le rapport d'autopsie a permis de déterminer que les moines ont été décapités post-mortem et qu'il n'y avait pas de traces de balles, ce qui contredit la thèse d'une bavure de l'armée algérienne. Faute de preuves, il est impossible de privilégier une thèse ou une autre, même si plusieurs témoignages vont dans le sens d'une manipulation des services secrets algériens.
Voilà pour les précisions de Valérie Crova. Le prix du pétrole à la hausse ou à la baisse dans les mois à venir. Nouvelle réunion de l'OPEP aujourd'hui. C'est important dans le contexte que l'on connaît en France. J'ai testé pour vous le vendredi dans ce journal de 13h. Allez, envie de respirer. Une nouveauté entre jeux vidéo et parc de loisirs aujourd'hui. Bonjour Mathieu Culeron.
Bonjour.
Le parc d'attractions du 21e siècle sera peut-être virtuel. En tout cas, vous avez testé, Mathieu, en avant-première, ce parc de réalité virtuelle qui se trouve à la Villette, au nord de Paris.
Oui, exactement. Ça s'appelle Illucity. Et effectivement, avec 1000 mètres carrés de surface et une vingtaine d'expériences, c'est le plus grand parc qui existe à ce jour. Alors la VR, comme on dit, la réalité virtuelle, on résume, c'est une immersion totale dans un jeu. On vous met un casque, un ordinateur en sac à dos, on vous installe des capteurs un petit peu partout. Oui. Et là, vous êtes plongé.
Vous y êtes beau, hein ?
Oui, très beau. Et vous êtes plongé dans un univers créé entièrement en images de synthèse. Plusieurs types de jeux, des escape games, c'est-à-dire des jeux d'énigmes où il faut trouver une sortie, des jeux d'arcade, des simulateurs de vaisseaux, de voitures, etc.
Alors qu'est-ce que vous avez testé ?
Alors pour ma part, moi j'ai testé un escape game et là je peux témoigner d'une sensation mais vraiment extrême. On vous met dans une petite pièce et là on modélise entièrement votre corps et en un instant vous vous voyez en combinaison spatiale. Vous pouvez voir vos jambes, vos bras habillés, vous pouvez regarder évidemment à 360 degrés et là on vous plonge dans un monde totalement irréel, un monde qui peut-être totalement anxiogène. Oui. Attaque de zombies, par exemple, oui. Tremblement de terre, car il faut dire que le sol bouge et il y a même des ventilateurs qui recréent l'illusion du vent. Un monde qui peut donc être stressant, mais aussi très apaisant. Et ça, je peux vous le dire, j'ai testé. À un moment donné, on m'a téléporté sur une terrasse, visiblement dans un pays asiatique. Il faisait très beau, les oiseaux chantaient. Je me suis senti extrêmement bien, calme, apaisé. C'est totalement bluffant.
Alors, parole d'un de vos camarades de jeu, il s'appelle Théophile, il a 23 ans. Là, on le retrouve en pleine expérience, aux commandes d'un vaisseau spatial, bien sûr.
Alors là, je suis dans un vaisseau de type un peu X-Wing à la Star Wars. Bah pour l'instant, ça va, c'est relativement tranquille. Ah, on croise Jupiter. Oulala, là, mon vaisseau, il... Ah bah, je suis parti. Oula, attention, là, si on est épileptique, par contre, c'est moyen bof. Là, je suis dans un espèce de couloir de type un peu hyper-espace. Un peu, ouais, à la Stargate. Ça rappelle les voyages de Stargate. Là, surtout, je suis bien dans le système solaire. Ça plaira beaucoup en tout cas à un large public parce que justement c'est pas trop extrême non plus et ouais non c'est très intéressant en tout cas bonne expérience et j'ai envie de tester d'autres choses du coup.
Le garçon a croisé Jupiter. Alors, Mathieu Culeron, il y a donc les Escape Games dont vous nous parliez et vous en avez testé. Hein.
Oui, alors moi, je devais sortir d'un vaisseau. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi à en sortir. Je suis décédé. Maria, elle était sur un radeau sur une rivière infestée de zombies.
C'était assez impressionnant, on se sent vraiment dans le truc, on est complètement happé par le jeu. Le mot-clé, c'est vraiment pour le coup immersion, et on est en plein dedans. Les effets spéciaux sont très beaux, c'est très bien fait, c'est extrêmement visuel, c'est extrêmement esthétique.
C'était quoi votre monde là ?
On était donc The Raps, on était des rednecks sur un radeau, et on devait donc avancer un petit peu, et on s'est fait attaquer par des aliens. Donc notre but, c'était justement de tuer des monstres. Non, franchement, c'était une très belle expérience.
Bon, eh bien, tant mieux si vous voulez tester vous aussi, comme Mathieu Culeron. Ça s'appelle donc Illucity. C'est ouvert à partir de mercredi à la Villette, à Paris.
La météo avec les œufs fermiers de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Et le bon goût de la pluie, Élodie Calac.
Des pluies traversent le pays, elles gagnent la Nouvelle-Aquitaine, le centre, la région parisienne, la Bourgogne, les frontières belges et luxembourgeoises. Elles finiront par atteindre le sud-ouest, le massif central et les régions de l'est ce soir et cette nuit. Attention au vent, il souffle fort jusqu'à 80 km à l'heure. Il se renforcera d'ailleurs sur les Alpes et la Corse ce soir jusqu'à 100-120 km à l'heure. La neige s'abaissera sur les massifs de l'est vers 800 mètres. Sur le nord-ouest, c'est un ciel d'averse, parfois avec un orage, du grésil, du vent fort jusqu'à 90 km à l'heure. Les Pyrénées-Rhône-Alpes et les régions méditerranéenne profite du soleil cet après-midi. Il fait doux, 17 à 13 degrés au nord, 14 à 18 au sud. Le week-end s'annonce agité avec de la pluie, beaucoup de vent et de la neige sur le relief de l'Est.